La présentation que je vais faire aujourd'hui porte sur les freins et leviers à l'adoption de l'innovation dans les pratiques de plantation. Et c'est une présentation qu'on a faite avec des collègues d'AgroParisTech, de l'ONF RDI et du FCBA. Alors, notre équipe à Nancy, elle a pour objectif premier de concevoir et diffuser des itinéraires innovants pour le renouvellement forestier, que ce soit en plantation ou en régénération naturelle. Donc, dans la partie conception, on s'intéresse beaucoup aux aspects techniques. Et dans la partie diffusion, bah, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, hein. Donc, là, on va plutôt parler de questions de diffusion et d'adoption de l'innovation. Alors, la sylviculture, l'innovation en sylviculture, la sylviculture, comme toute activité économique, hein, fait l'objet d'innovations régulières. Et actuellement, on estime que cette innovation, elle est particulièrement nécessaire pour adapter la sylviculture à un contexte qui est en forte évolution, hein, que ce soit les changements climatiques, les attentes des différents acteurs ou le contexte économique. Et donc, si on est dans un contexte changeant et qu'il faut l'innovation est nécessaire, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut la favoriser et comment est-ce qu'on peut l'accélérer? Alors, l'innovation en général, c'est un processus qui a été largement étudié, qui a été largement théorisé. En sylviculture, à l'inverse, c'est peu connu et les études qui se font, qui portent sur l'innovation en sylviculture sont des études qui globalement démarrent. Et c'est-à-dire qu'actuellement, on n'a pas encore les clés pour savoir comment favoriser et accélérer cette innovation. Alors, je vais faire quelques généralités sur le processus d'innovation, hein, pas spécialement en sylviculture, mais de façon générale. Donc, l'innovation telle qu'elle est définie par l'OCDE, donc c'est une définition très classique, c'est la mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé nouveau, sa mise en œuvre dans les pratiques de l'organisation concernée. Et le point important que j'ai souligné ici, c'est le mot mise en œuvre, c'est-à-dire que ce produit ou ce procédé, il doit être réellement mis en œuvre dans les pratiques. Quand on regarde sur un schéma le processus d'innovation, comment il se déroule dans le temps. Donc, on part d'un résultat de la recherche, on arrive à un produit opérationnel et puis ensuite à un produit utilisé. Donc, selon ce schéma, on peut regarder, je représentais ici le taux de réussite d'une étape à la suivante et on voit qu'au niveau des résultats de recherche, eh bien, le taux de réussite est assez fort, hein, les chercheurs sont très bons. En revanche, quand on passe du résultat de la recherche à un premier prototype, là on voit que le taux de réussite chute très fortement, c'est-à-dire qu'il y a peu de résultats de recherche qui sont transformés en des idées de prototype. En revanche, quand on avance dans les prototypes, on s'aperçoit que là le taux de réussite augmente, c'est-à-dire que plus on avance dans le produit opérationnel, plus finalement le passage à l'étape suivante se fait bien. Et donc on a un trou entre les deux que les Américains appellent la vallée de la mort. Et dans laquelle, eh ben, il y a plein de résultats de recherche qui restent coincés et qui ne deviennent jamais des produits opérationnels. Alors, si on continue ensuite le processus, hein, le produit, une fois qu'il est opérationnel et donc totalement utilisable, finalement, les premières utilisations sont assez peu fréquentes et on arrive à un taux de réussite qui, de nouveau, est très faible. Et c'est une fois que les premières utilisations démarrent et commencent à être un peu plus fréquentes que le taux de réussite augmente, c'est-à-dire que, bon, il y a un effet d'emballement, hein, quand le produit commence à être utilisé. Il est largement utilisé, mais on a de nouveau un creux et on a donc une deuxième vallée de la mort, si on peut dire, dans laquelle il y a plein de produits opérationnels qui restent coincés, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent jamais leur public cible. Et par rapport à ces deux phénomènes de creux, ce qu'on peut dire, c'est que les politiques qui visent à améliorer l'innovation, elles ont pour objectif de combler ces deux creux, hein, c'est-à-dire faire en sorte que les résultats de recherche permettent d'initier des prototypes. Et puis aussi faire en sorte que les produits opérationnels y trouvent des premiers utilisateurs. Donc, ce sont les deux gros volets sur lesquels se focalisent en général les politiques d'innovation. Donc, ça nous définit deux phases de l'innovation, l'invention, qui est la création d'un produit opérationnel, et puis l'appropriation de ce produit par ses utilisateurs. Et donc, définir l'innovation comme invention plus appropriation, donc c'est une vue très classique de l'innovation. Alors, sur ces deux phases, si on s'y intéresse, les gens se demandent comment la mesurer. Donc, il existe des métriques, hein. Pour l'invention, les Américains appellent les échelles TRL pour Technology Readiness Level. Donc, c'est un degré de maturation technologique. qui décrit finalement comment on passe les degrés TRL 1, c'est de la recherche fondamentale, finalement au degré 9, qui sont des systèmes qui sont lancés et industrialisés, complètement opérationnels. Et puis, l'appropriation, elle est mesurée par des échelles LOU pour Level of Use, un niveau d'utilisation, qui vont d'un niveau 0, c'est pas du tout d'utilisation et aucune connaissance du produit, à un niveau 7, qui sont une appropriation complète et une maîtrise du produit par des utilisateurs. Donc, c'est des échelles qui sont relativement utilisées, que vous avez peut-être rencontrées quand on parle d'innovation ou de projets qui sont censés produire de l'innovation. Le problème, enfin, la limite de la représentation que je viens de faire, là, dans le temps où on passe du produit de la recherche au produit opérationnel et puis finalement au produit utilisé, c'est que ça présente ça de façon séquentielle. On fait d'abord l'invention, puis l'appropriation. Donc, quand on se déplace dans les échelles TRL et LOU, ça veut dire qu'on progresse d'abord en échelle TRL, donc c'est le chemin en bleu. Et puis, une fois qu'on a notre produit totalement opérationnel, on fait de l'utilisation et on progresse sur l'échelle des LOU. Ça, c'est un chemin qui ne marche pas. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, ce qui marche bien, c'est de faire progresser les deux ensemble. Donc, on progresse un peu en TRL, on progresse un peu en LOU, c'est-à-dire on fait connaître le produit, on commence à communiquer dessus, on commence à former les gens dessus. Et au fur et à mesure que le produit est utilisé, on progresse également aussi en opérationnalité. Alors, le chemin que j'ai présenté en vert, il est totalement théorique, mais en fait, on sait qu'on se promène quelque part dans cette fenêtre en progressant dans les deux ensemble. Voilà. Et donc dans la suite, donc nous, dans notre équipe, on s'intéresse aux deux aspects, à la fois l'aspect invention, faire des outils, concevoir des outils, des méthodes qui fonctionnent, mais aussi l'aspect appropriation. Et dans la suite de la présentation, on va se focaliser sur l'aspect appropriation. Donc pour réfléchir à l'innovation dans les pratiques, nous, on a pris le cas de l'innovation de ce qu'on appelle la préparation mécanisée du site, la PMS. Donc, c'est préparer le site avec des engins mécanisés, des tracteurs, des mini-pelles, dans le but de favoriser le taux de succès de la plantation. Et on voit que dans de nombreux contextes, l'utilisation de ces opérations de PMS permet effectivement de manière significative d'augmenter le taux de succès des plantations. Alors, sur cette question, on a fait un constat qui est que dans les 20 dernières années, il y a eu de nombreux outils qui ont été développés par différents opérateurs, par différents acteurs. En parallèle, il y a eu un effort important dans les actions de dissémination, de formation, de publication, de démonstration. Mais au final, de la part des acteurs de la R&D, il y a un ressenti très clair d'une appropriation qui serait assez faible des outils par les praticiens. Et donc ça, c'est ce qui nous a amené à nous poser des questions sur cette appropriation. Savoir qu'est-ce qu'elle était réellement, pourquoi est-ce qu'elle est aussi faible et comment est-ce qu'on peut améliorer cette appropriation. Donc ça nous donne les objectifs de notre étude, qui sont d'identifier les conditions d'adoption et d'utilisation effective des outils. Ensuite, on cherche à identifier les leviers pour lever les freins à l'adoption. Et puis ensuite, à partir de ça, on essaye d'élaborer une stratégie pour favoriser l'adoption des innovations. Et pour cela, on s'est basé sur des enquêtes et des ateliers avec les différents acteurs. Et ici, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats de 3 enquêtes qu'on a menées. Voilà. Et on finira par vous présenter la stratégie qu'on en a dérivée. Donc, la première enquête, elle s'intitule « Adoption de l'innovation dans les pratiques sylvicoles en Haute-Normandie ». Et l'objectif, c'était d'identifier les facteurs qui influencent le processus d'adoption des innovations par les différents acteurs. Donc, on avait différentes hypothèses sur des freins possibles qu'on a essayé de tester à travers cette enquête. La première hypothèse, c'était que les outils et les méthodes proposées étaient mal perçus parce que, en fait, ils ne correspondaient pas aux attentes des gens. Donc, les outils qu'on propose ne sont pas en phase avec ce qu'il faudrait leur proposer. La deuxième hypothèse, elle porte sur une perception de l'innovation en général qui pourrait être négative et qui ferait que finalement, quels que soient les outils qu'on propose, sans même regarder s'ils conviennent ou pas, les gens les rejetteraient a priori. La troisième hypothèse, elle pose sur les représentations des acteurs entre eux, savoir quelles sont leurs visions mutuelles et savoir, dans le cas d'une vision qui ne serait pas très positive, est-ce que ça freinerait la constitution de réseaux d'acteurs. Et ça, c'est basé sur l'observation que dans les domaines dans lesquels l'innovation se fait bien, est efficace, sont des domaines dans lesquels les réseaux d'acteurs, hein, qu'on appelle le système d'innovation, fonctionnent bien avec beaucoup d'échanges entre les acteurs et que c'est reconnu comme étant une des conditions importantes pour pouvoir finalement avoir de l'innovation, c'est que ces réseaux d'acteurs soient efficaces. Et puis la dernière hypothèse qu'on a voulu regarder, ça concerne la perception des risques et incertitudes associés à la gestion forestière. Alors ça, c'est basé sur l'idée que l'innovation, c'est un investissement et que dans un contexte incertain, bah, les gens ont des réticences à l'investissement et donc peuvent avoir des réticences à l'innovation. On ne va pas investir dans des nouveaux outils, dans de l'apprentissage, si finalement on ne sait pas ce qu'on devra faire demain. Et donc, pour tester ces différentes hypothèses, on a mené des entretiens semi-directifs. Donc, on a eu 34 entretiens avec des propriétaires, des gestionnaires, des conseillers, des entrepreneurs. Donc, dans une région, la Haute-Normandie. Alors, je ne vais pas vous détailler les entretiens ni leur analyse, je vais aller directement aux conclusions qu'on a tirées. Il y a des freins qu'on a éliminés, hein, et notamment, on a observé une attitude globalement très ouverte et très positive vis-à-vis de l'innovation technologique en général et des résultats qui sont produits par les instituts de R&D en forêt. Globalement, les outils qui étaient proposés étaient jugés comme étant adéquats et bien conçus. En revanche, on a identifié deux types de freins qui nous en semblaient importants. La première, c'est une faiblesse des réseaux sociotechniques qui se base notamment sur des représentations assez négatives des acteurs les uns vis-à-vis des autres et qui ont pour conséquence une mauvaise circulation de l'information. L'information circule très peu d'un type d'acteur à l'autre, hein, entre les propriétaires et les opérateurs, entre les publics et les privés. Et finalement, entre types d'acteurs, l'information circule très peu. Et puis, ça mène à l'absence d'une vision partagée et la définition d'objectifs communs. Et la deuxième chose qui ressortit très fortement dans la plupart des entretiens, c'était de nombreuses incertitudes sur ce qui sera nécessaire de faire dans le futur et qui vont accentuer l'aversion au risque des acteurs et donc une aversion à investir dans l'innovation. Les leviers qui ont été identifiés, donc ça a été de travailler à la facilitation de la mise en réseau des acteurs locaux. Mieux partager l'information au sein des réseaux et puis construire des partenariats pour mieux partager les risques économiques qui ne soient pas supportés par un seul acteur. Et donc, finalement, les leviers qu'on a identifiés par rapport à ça, c'est vraiment sur la mise en réseau et améliorer l'information sur les outils que l'on propose. Donc, suite à cette première enquête, on a eu une deuxième enquête qui a un titre un peu similaire, hein, identifier les freins et leviers à la... je n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessous. L'objectif de cette deuxième enquête, c'était de compléter et étendre l'enquête qualitative qui avait été réalisée en Normandie, la compléter et l'étendre à des échelles plus larges et puis arriver à des appréciations plus qualitatives, quantitatives et plus détaillées. Donc, ce qu'on a cherché, c'est valider les freins à plus grande échelle, les détailler et les quantifier. Et donc, on s'est posé une série de questions plus précises, hein, qui ont structuré l'enquête. La première, c'est d'estimer le niveau de connaissance et d'appropriation des outils innovants par les praticiens. La deuxième, c'était identifier les raisons qui président à l'utilisation des outils innovants. Et puis ensuite, à partir de là, identifier des actions qui pourraient favoriser l'appropriation des outils innovants. Donc, je vais vous présenter quelques résultats. D'abord, la méthodologie. Donc, c'est un questionnaire en ligne qu'on a lancé et qu'on a diffusé à un niveau national à travers différentes régions. Et on a obtenu au final un peu plus de 400 réponses qu'on a pu utiliser. Donc, je vais vous présenter quelques résultats. Donc, le premier, ça concerne le niveau de connaissance et d'appropriation des outils. Donc, on leur a proposé une liste de 17 outils qu'on a considérés comme innovants et relativement récents, donc développés dans les 20 dernières années. Donc, j'en ai quelques-uns en photo sur le côté. On en avait 17 en tout. Et ensuite, on a demandé aux gens, pour chaque outil, est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous l'utilisez? Et ensuite, on en a déduit, bah, pour chaque personne, le nombre d'outils innovants qu'il utilisait et qu'il connaissait. Et les résultats qu'on vous présente ici, c'est scindé entre propriétaires, gestionnaires privés, gestionnaires publics et opérateurs. Alors, si on regarde les propriétaires, donc on voit là, les premières barres, là, c'est zéro, ça veut dire zéro outil. En rouge, c'est les outils connus et en. Non, les outils utilisés et en bleu, les outils connus. Et on voit finalement que 80% des propriétaires utilisent zéro outil innovant et 50% des propriétaires connaissaient zéro outil innovant parmi la liste 17 qu'on leur a proposée. Quand on regarde les gestionnaires publics, par exemple, là on voit que les maximums, c'est plutôt à 1. Et en fait, il y avait 40% des gestionnaires publics qui utilisaient un seul outil innovant et puis 25% qui en connaissaient un seul. On s'aperçoit que le nombre de gestionnaires publics qui utilisent trois outils ou plus, ils sont très faibles, hein, c'est moins de 10%. Donc, on voit des différences importantes entre les acteurs. Et quand on fait la moyenne à travers tous les acteurs, finalement, 25% des répondants ne connaissaient aucun outil innovant et 53% des répondants n'en utilisaient aucun. Donc, effectivement, un taux d'appropriation des outils qui était faible, qui confirmait bien le ressenti qu'il y avait au départ. Donc ensuite, on leur a posé une question sur les avantages évoqués pour les outils utilisés. Donc c'est, vous avez un outil innovant que vous utilisez. Pour cet outil, quelle est la raison, quelles sont là ou les raisons qui font que vous l'avez utilisé? Et finalement, la première raison avancée, c'est cet outil assure une bonne reprise des plans. La deuxième raison avancée, c'est cet outil est efficace dans une large gamme de situations. Donc, en fait, finalement, c'est les performances techniques qui sont citées largement en premier. Bien en second lieu, les performances environnementales. Donc, la troisième réponse la plus fréquente, c'est cet outil a un impact réduit sur l'environnement. Et puis, en dernier lieu, viennent les performances ergonomiques. Donc, toutes les questions sur l'entretien est facile, la mise en œuvre est aisée, l'ergonomie est bonne, il est simple à utiliser, étaient finalement les raisons qui étaient le moins souvent évoquées. Donc, c'est vraiment les performances techniques qui sont primordiales. On leur a posé la question inverse, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils n'utilisaient pas un outil? Donc, on leur a dit, bah, vous avez un outil qui est considéré comme performant, on vous a démontré qu'il était performant, et finalement, pourquoi est-ce que vous ne l'utilisez pas? Donc, on leur a proposé un certain nombre de réponses possibles, qu'on a ensuite regroupées en des réponses qui tenaient plutôt d'ordre économique, plutôt d'ordre de la disponibilité locale, ou plutôt qui avaient un lien avec les questions de transfert. Et puis, il y avait toute une gamme de réponses. Hein, et à partir de ça, on a fait un indicateur d'importance du facteur. Donc, quand l'indicateur est à zéro, c'est-à-dire que le facteur n'est pas du tout important. Et le maximum possible, c'était 2. Donc, c'est un facteur qui est très important. Et ce qu'on voit, ce qui ressortait principalement, c'était les facteurs économiques. Hein, le marché est insuffisant, l'investissement financier est trop élevé, il n'y a pas d'accompagnement financier. Et venait tout de suite derrière la disponibilité locale des outils et des opérateurs qualifiés pour manipuler ces outils. Et toutes les questions liées au transfert, finalement, ont reçu des niveaux d'importance qui étaient assez faibles. Hein. Voilà, ça n'a pas été jugé comme des freins à l'utilisation des outils. Alors, la question suivante qu'on leur a posée, c'est selon vous, on leur a proposé différents leviers possibles pour favoriser l'utilisation de nouveaux outils. Et puis ensuite, ces différents leviers, on les a classés de nouveau en des leviers qui sont liés à des facteurs économiques, des leviers qui sont liés au réseau d'acteurs et puis des leviers qui sont liés au transfert. Et puis, on a donné une note d'importance, hein, 0, pas du tout important, 2, c'est très important. Et là, ce qui ressort finalement, c'est les leviers les plus importants, c'est le transfert. Améliorer la formation initiale, fournir des conseils sur les outils, améliorer la diffusion écrite des nouveaux outils, faire des journées de démonstration, faire des parcelles de référence. Et c'est ça qui nous a un peu étonnés, c'est que alors que ce n'était pas jugé comme un frein important, ben finalement, on estime que c'est le levier le plus important à mettre en œuvre. Et puis, les questions économiques et les leviers qui permettaient d'améliorer le réseau des acteurs, finalement, ont été jugés comme assez peu importants ou assez peu efficaces. Fournir des aides financières, accompagner l'investissement, créer des projets multi-acteurs, faire de l'investissement mutualisé, accueillir des professionnels dans les structures de R&D. Toutes les propositions qui ont été faites dans ce sens ont été jugées finalement assez peu efficaces ou pas adaptées, quoi. Alors que c'était le frein principal qui avait été mis en avant dans les questions précédentes. Donc, en conclusion, sur cette enquête, ce qu'on en a tiré, c'est que effectivement les niveaux de connaissance et d'appropriation des outils sont faibles. Ce sont les performances techniques qui sont le premier critère suivi par les gens, les acteurs. Les freins principaux identifiés par les acteurs sont les critères économiques et la disponibilité locale. Et les leviers accessibles identifiés par les acteurs, c'est le transfert de connaissances qui est plébiscité par l'ensemble des acteurs pour améliorer la diffusion des outils. Et ce qu'on a noté d'important, c'est globalement un scepticisme des acteurs sur l'accompagnement à la constitution de réseaux qui leur semble difficile à mettre en œuvre et qui sont jugés comme peu efficaces. Donc globalement, tout ce qu'on a proposé, c'était soit pas approprié, peu efficace, irréaliste, alors que c'est reconnu comme un frein majeur dans cette enquête et dans l'enquête précédente. Donc ça rejoint les résultats de l'enquête précédente sur l'importance de ces réseaux. Pour finir, je vais juste vous montrer une diapo sur la troisième enquête qui a porté sur les bilans des actions de transfert qui ont été menées et les attentes par rapport aux actions de transfert futures. Donc ça, on l'a également fait à travers une enquête en ligne sur laquelle on a eu environ 300 réponses avec différents acteurs, des gestionnaires privés, publics et des opérateurs. Ce qu'il en est ressorti, c'est que les principaux canaux d'information, c'est en premier lieu tout ce qui est relations professionnelles, des échanges directs entre personnes, les démonstrations de terrain et la presse spécialisée. C'était vraiment ce qui ressortait en premier. Et puis ensuite, en deuxième lieu, les canaux suivants, c'était la formation interne à l'entreprise, des manifestations, des séminaires, des colloques, en deuxième lieu. Globalement, il y avait une bonne satisfaction des participants aux journées de communication et à l'ensemble une bonne satisfaction vis-à-vis de la qualité des outils qui étaient faits pour soutenir le transfert. Et puis les attentes, donc c'est le graphique que je vous ai montré là, on leur a demandé finalement quels sont les moyens de transfert que vous souhaiteriez voir développés. C'est principalement des formations courtes sur un jour et des démonstrations de terrain. Donc c'est ce qui, alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que ce n'est pas très net l'écriture, mais c'est les lignes du bas, formation courte, où il y avait les trois quarts des personnes interrogées qui ont dit que c'était effectivement ce qu'ils préféraient. Donc ils ont répondu oui, et pareil pour les démonstrations de terrain. Et en revanche, tout ce qui était formation en ligne, formation longue, a été très peu demandé. Donc pour finir en conclusion, sur l'élaboration d'une stratégie de transfert pour favoriser l'innovation dans les outils de PMS, la conclusion était bien sûr qu'il faut poursuivre les efforts sur le transfert de connaissances, des méthodes innovantes de plantation. Et donc les deux voies classiques pour faire de transfert, c'est la formation initiale et puis la formation continue, ce qu'on appelle l'auto-formation. Et ce qu'on a aussi observé à travers les ateliers qu'on a fait là, sur la formation initiale, c'est que, donc principalement dans les lycées agricoles privés et publics, c'est que le thème de la plantation, il est traité de façon très limitée. Le mot plantation, il est quasi absent des référentiels des différents diplômes. Et puis l'intérêt des formateurs pour la formation n'est pas forcément toujours là. Souvent, quand on leur dit renouvellement, on pense à la régénération naturelle et très peu à la formation. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui est très peu abordé dans les formations initiales. Et alors, ce que je dis, c'est vrai, sauf dans les régions qui sont très concernées par les plantations, notamment l'Aquitaine. Et dans les régions moins concernées par la plantation, finalement, c'est quasiment pas abordé en formation initiale. Et du coup, la formation continue et l'auto-formation sont très importantes, puisque c'est là qu'on va quasiment uniquement former les gens. Et mais après, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que c'est aussi efficace? Est-ce qu'on touche tout le monde? Est-ce qu'on arrive à atteindre des objectifs qu'on se fixe? Alors, en formation professionnelle, ce qu'il a semblé important, c'est de développer une démarche en deux temps. Premièrement, une première étape, ce qu'on appelait niveau 1, c'est faire une information généraliste sur la thématique plantation. Donc là, qui vise tout type d'acteurs de la filière. Donc, c'est faire des articles assez généralistes, faire des journées d'échange qui mélangent des publics différents. Donc ça permet ensuite de préparer un niveau qui va être plus précis et plus focalisé, et puis ça permet à travers les échanges entre publics de favoriser la création des réseaux. Et puis au niveau 2, faire des actions de formation qui sont adaptées à un public ciblé, Donc, par type de professionnel, hein, des prestataires, des décideurs, des opérateurs séparément, mais aussi par contexte de gestion. Donc, on va pas, les attentes ne sont pas les mêmes dans la forêt privée et la forêt publique. Hein, donc, il faut vraiment, dans cette deuxième étape, axer sur un public très précis. Et puis, ça veut aussi dire des régions spécifiques. Hein, les problèmes étant assez différents selon les régions. Quand on veut aller dans des choses assez techniques et assez précises, il faut vraiment cibler ce qu'on veut dire. Donc après, il faut, au niveau du support des transferts, il faut bien sûr les adapter. Ce qui est important, c'est de les diversifier. Hein. Donc on voit que les demandes étaient finalement pour des supports très différents. Donc il faut continuer à les diversifier. Il y avait une demande très forte pour ce qu'on a appelé des informations pré-digérées, donc des informations simples, hein, et sur des supports courts, hein, sur les formations. Les gens demandent des formations de une journée, deux journées maximum. Et quand on va sur des formations plus longues, en fait, c'est très difficile de trouver des participants. Et puis de privilégier les informations contextualisées en région par mode de gestion. Et le deuxième point qu'on a soulevé, hein, sur la mise en réseau des acteurs, donc on a vu à plusieurs reprises que c'était un point important, un frein important. En revanche, tout ce qu'on a proposé pour la favoriser, ben, ça n'a pas été très bien reçu, ça n'a pas été jugé très efficace. Et là, il y a probablement des choses à mettre en place, hein, et une réflexion à mettre. Et ben, on pourrait dire probablement innover sur la façon dont on fait travailler les acteurs ensemble. Mais à l'issue de notre travail, on n'a pas été capable de proposer des actions précises pour favoriser cette mise en réseau. Voilà, je vous remercie et j'en ai fini.